chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Mathieu Davina, directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles, se penchait sur la domesticité et les réseaux sociaux et familiaux à Versailles sous le règne de Louis XIV. Un service assidu et efficace auprès du roi et de sa famille permet la création de grandes dynasties curiales qui connaissent, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, de grandes ascensions. Il en est ainsi particulièrement des domestiques qui approchent directement le souverain ou la souveraine. Juridiquement, il est interdit de posséder un autre fils dès lors que l'on est officier commensal. Ceci reste théorique, car la proximité avec le pouvoir royal entraîne nécessairement l'octroi de nouvelles charges, souvent plus lucratives d'ailleurs que la principale. Ainsi, il n'est pas rare de cumuler une charge de valet de chambre avec celle de concierge, voire d'intendant d'un château royal. Les détenteurs de charges occupent progressivement des postes clés de l'administration du château, permettant de placer toute leur progéniture dans les différentes places qu'ils ont accumulées. Ces personnages tissent généralement entre eux des liens sociaux très importants qui souvent se matérialisent par des alliances matrimoniales. Un valet de chambre du roi épouse une femme de chambre de la reine, un apothicaire, une fille de médecin, etc. Les mariages se négocient comme des paris sur l'avenir et l'on n'hésite pas à payer une dot importante pour une fille afin de récupérer une charge significative dans la nouvelle belle famille. L'ascension dynastique se fait progressivement et plusieurs familles en sont de parfaits exemples. On peut ainsi citer le cas des Laroche, qui de simples concierges de la ménagerie à l'époque de Louis XIV avec Geoffroy, deviennent sous Louis XV des premiers valets de garde-robe. Deux filles de la quatrième génération épouseront même un vicomte de Rochechouart et le duc de Villequier. Les Laroche se lient aussi avec des financiers, Claude et Antoine Paris, dans le cercle de la marquise de Pompadour, mais également avec les Lebel, concierges de Versailles, et dont le célèbre Dominique Guillaume finit premier valet de chambre de Louis XV. Pour la postérité, il est resté le pourvoyeur du roi en jeune fille, qu'il entretenait au parc aux cerfs. Ce monde qui entoure la famille royale constitue une sorte de gens Romana, composé de clans familiaux qui accaparent toutes les charges principales, bien loin de la spécificité des offices, qui à l'origine ne devaient pas être vendus, mais attribués, suivant le principe du bon discernement royal. La vénalité des offices, c'est-à-dire la possibilité de les vendre entre particuliers, est née de la nécessité impérieuse de la monarchie de gagner de l'argent. Madame Palatine, belle-sœur de Louis XIV, ne s'y trompe pas. Quand évoquant ses souvenirs de la cour Louis XIVe, elle déplorait d'être servie, lorsque le roi mangeait avec les dames ou en voyage, par des gens qui n'étaient pas gentilshommes. Anciennement, tous les officiers du roi, tels ceux de l'échansonnerie, du gobelet, du fruit, etc., étaient gentilshommes. Mais depuis que la noblesse est devenue pauvre et que toutes les charges se sont payées cher, il a fallu prendre de bons bourgeois qui usent de l'argent. Les titulaires retenus continuent toutefois de faire l'objet d'enquêtes de bonne vie et bonne mœurs, mais la royauté ne contrôle plus directement les recrutements. Ce que Saint-Simon critique vivement au début du règne de Louis XV, en tentant de convaincre le régent de reprendre la main sur la distribution des offices. L'un des arguments de Charles Loiseau contre la vénalité des offices est précisément le fait que des gens fortunés et parfois mal intentionnés puissent se glisser parmi les proches domestiques royaux. Mais surtout, c'est chose dangereuse pour ce que l'entrée près de la personne du roi étant ouverte à l'argent, ennemi perpétuel de la vertu et instrument ordinaire de la trahison, déjà, Est-il pas à craindre que les ennemis de Sa Majesté y jettent, à force de doublons, tant de personnes qu'ils voudront à leur dévotion pour faire un coup à tout perdre? Ou encore, bien plus explicite, la personne, voire la vie du roi, est continuellement en sa possession, en la puissance de ses officiers domestiques. S'ils sont méchants et traîtres, il est du tout impossible d'exempter notre Alexandre d'un mauvais complot. Au dire du juriste, il faut se méfier notamment des grands, y compris la famille du prince, capables de placer leurs fidèles dans l'entourage royal. Où se situe la loyauté envers celui auquel on s'est donné, par simple proximité géographique parfois, et la fidélité au roi? S'offre donc comme un creuset de la société et dispose à ce titre d'une hiérarchie interne qui mélange l'officiel et l'officieux. La géographie de l'habitat versaillais est un bon marqueur de la hiérarchie sociale. Il permet de saisir les rangs de chacun dans le palais. La naissance, mais aussi et surtout l'usage, commande cette topographie. Avoir un logement à la cour est déjà une victoire en soi, mais être le plus proche du souverain devient un triomphe. Le sanctuaire reste le corps central du château où habitent le roi, la reine et leurs enfants. Il reste toutefois des espaces pour les domestiques les plus proches, tels les premiers valets de chambre du roi ou encore les premières femmes de chambre de la reine. Les titulaires de ces charges sont loin d'être de grands seigneurs ou d'appartenir à la haute noblesse. Mais ils ont besoin d'être à proximité de leurs maîtres et maîtresses pour les servir à tout moment. C'est ainsi que François-Louis de Nières, premier valet de chambre de Louis XIV, occupe un très bel appartement sur le parterre du Midi, juste au-dessus du grand appartement de la reine. Tous les commensaux n'ont toutefois pas cet avantage, et les premiers gentilshommes de la chambre ou les dames d'honneur de la reine, pourtant tous ducs et duchesses, se répartissent entre les ailes du Midi et du Nord. Ils disposent néanmoins de beaux logements, composés généralement d'une antichambre, d'une chambre et d'un cabinet et d'une garde-robe. Sans compter les nombreux entresols, ce n'est certes pas le confort de leur hôtel particulier, mais cela reste très convenable. Sous le règne de Louis XV, le duc de Croix affirme dans son journal « J'ai toujours remarqué que les deux seules grâces, réellement d'un usage agréable à la cour, sont les entrées et un bon logement au château. Le reste est peu de choses auprès de ceux-là. » Thank you. De même, la hiérarchie sociale est souvent contredite par la hiérarchie intime. Si elle offre un accès privilégié au monarque, une charge élevée, réservée à la haute aristocratie, ne donne pas nécessairement un accès à la privance du roi. Le système évoqué par le duc de Croix, des entrées chez le roi et donc son accès permet de saisir cette nuance. Il existe ainsi diverses entrées chez le monarque et le duc de Saint-Simon en distingue 6, dont les plus importantes semblent être celles par les derrières, que possèdent non seulement des personnes à titre exceptionnel, mais aussi les serviteurs les plus proches du souverain. Outre ces entrées, il y en avait 2 autres, auxquelles pas un de qui, par la charge ou personnellement avait été celle dont on vient de parler, n'était admis. C'étaient les entrées de derrière et les grandes entrées du cabinet. Ces 4-là, le duc du Maine, le comte de Toulouse, Jules Hardouin-Mansart et le duc d'Antin, entraient quand ils voulaient dans les cabinets du roi, par les derrières, les matins, les après-dîners, quand le roi ne travaillait pas, et c'était la plus grande familiarité de toutes et la plus continuelle dont ils usaient journellement. Mais jamais, en aucun lieu où le roi habita, ils n'entraient que par les derrières, et n'avaient aucune des autres entrées dont j'ai parlé auparavant, sinon que ceux qu'ils avaient, celles du cabinet, les y trouvaient, parce qu'en entrant par derrière, ils pouvaient être en tout temps sans pouvoir aussitôt sortir. Avec ces entrées, ils se passaient aisément de toutes les autres. Concrètement, cette entrée permettait de passer simplement d'un lieu public, le grand appartement, à un lieu privé, le petit appartement. À Versailles, cela signifiait que les officiers les plus intimes du souverain, comme les premiers valets de chambre du roi, pouvaient se rendre sans aucun problème du château neuf, la partie du château sur les jardins, au château vieux, partie visible sur la cour de marbre qui abritait les cabinets privés du roi. Les serviteurs de moindre importance devaient, eux, se contenter de regarder de loin ces balais d'étiquettes, mais aussi d'espaces bien plus réduits et standardisés dans le bâtiment des offices, autrement appelé le grand commun. Construit entre 1682 et 1684, cet immense édifice de près de 20 000 mètres carrés prit place tout proche du château, au sud-est, côté ville, sur 4 niveaux. Il accueillit au rez-de-chaussée de nombreux services, la lingerie du roi pour son service de table, fourrière, etc. Des grandes pièces communes dédiées aux domestiques avec les tables pour les différents officiers. Salle des valets de chambre, salle des aumôniers, etc. Mais aussi la chapelle et la sacristie. Les étages supérieurs étaient dévolus au logement. Alors que le devis de construction de décembre 1681 en prévoyait 103, ils sont 220 en 1722 au retour de la cour à Versailles. Le nombre d'occupants est alors de 1500 personnes contre 4000 dans le château pour près de 48 000 mètres carrés. Thank you. À l'instar du château, la taille et le confort sont différents d'un appartement à l'autre. Dans les étages élevés, ce sont souvent les officiers servant par quartier, c'est-à-dire par trimestre, et de moindre rang, qui occupent des pièces réduites au confort très spartiate. Dans les galetas du grand commun, véritable logement de fonction, une chambre se partage généralement entre deux serviteurs. Une note des Archives nationales nous renseigne sur l'ameublement très sommaire de l'une d'elles. Chambre au fond du corridor, une chambre de bois en chêne, avec sa tablette à la cheminée, dans l'embrasement de la croisée donnant sur la rue de la Surintendance, actuelle rue de l'Indépendance américaine. Une cloison, avec une porte pleine, sans serrure, pour former une garde-robe. Quatre tablettes dans la dite garde-robe à côté de la cheminée dans un renfoncement. Une petite armoire avec deux tablettes et la serrure. Au même logement, chambre servant à messieurs les valets de chambre du roi en quartier. Une chambranle en bois de chêne à la cheminée. La population est fort disparate puisqu'on y trouve évidemment les nombreux officiers comme Mansot, mais aussi des personnes de plus grande importance comme le marquis de Villars, le père du maréchal, le marquis de Vardes, plusieurs membres de la famille Colbert ou encore André le Nôtre. Mais pour certains de ces personnages, le logement dans le grand commun, assimilé aux simples serviteurs, n'est qu'un pis-aller en attendant d'obtenir un logement au château. Véritable objectif. Certains y parviennent, d'autres demeurent perpétuellement dans la carrée des offices, dans des appartements moins prestigieux. Il en est ainsi de Cinquetot, introducteur des ambassadeurs, ou encore de Jean-Jacques II, de même, grand maître des cérémonies de l'ordre du Saint-Esprit. La cour de Versailles à l'époque de Louis XIV offre donc l'image d'une micro-société où cohabitent des individus très différents, mais finalement tous les domestiques d'une famille royale et au service du bon fonctionnement de leur résidence. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt dans une autre émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Pierre Écart, dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.